Salut tout le monde, ici Jérémy Filosa. Merci encore une fois d'être avec nous pour cet autre épisode de Sortie de zone. Cette semaine, bien sûr, plusieurs nouvelles du côté du Canadien. On va d'ailleurs parler d'Eric Staal puisque c'est confirmé. On devrait le voir sur la patinoire dès lundi. Allons tout de suite rencontrer nos panélistes pour l'émission d'aujourd'hui. Michael Lalancette du côté de Québec. Salut Michael.
Salut Philo.
Guillaume Lefrançois de la presse, salut Guillaume.
Salut Jérémy.
Et Jérémy Rainville du 98.5, salut Jérémy, comment ça va?
Salut Philo, ça va?
Ouais, ce que les gens comprennent pas, c'est parce qu'on rigole un peu, mais ça fait quelques fois là, que je me trompe dans les nombres, on est obligé de reprendre le
mais
début
non, mais
de l'émission.
Une fois, tu m'as appelé philosophe, fait que donc j'ai pris un papier, j'ai marqué Rainville dessus.
Ouais, ouais, ouais.
Comme un macaron, pis, bonjour, mon nom est Jérémy Rainville.
Puis Lefrançois, je l'ai appris, Guillaume... La tendresse. Deux fois, parce que le vendredi, je book aussi mon show du samedi.
Okay,
donc, je parle à Guillaume le matin ou en début d'après-midi pour préparer l'émission du lendemain. Donc, voilà. Michael, c'est le seul qui est, lui, est en ligne droite. Fait que, on peut pas se tromper. Il y en a un seul, Michael Lalancette.
Tu pourrais l'appeler Michael Frolic, par exemple.
Ah oui, c'est vrai.
Mais Mick est trop vite pour que tu l'appelles Frolic.
C'est pas fin, ça. Pas fin. Bon, les gars, on a eu confirmation aujourd'hui du côté de Dominique Ducharme, là, que normalement, Eric Staal devrait être de la partie dès lundi. Donc, il sera pas là pour le match de samedi, bien sûr. Là, il complète sa quarantaine de 7 jours. Mais on se posait tous un peu la question... Est-ce qu'il va être en mesure tout de suite de sauter sur la patinoire? Bon, c'est un gars qui présentement n'a pas patiné depuis déjà une bonne semaine, là, depuis la transaction. Je sais pas si lui aussi, on y a envoyé un tapis roulant chez eux pour qu'il garde la forme ou quoi que ce soit, mais
ouais.
J'ai été un peu surpris qu'on confirme dès aujourd'hui que ça regardait bien pour lundi pour Staal.
Ouais, mais en même temps, j'ai bien aimé l'argument de Dominique Ducharme qui dit, tu sais, c'est parce que si on attend un entraînement complet, on n'aura pas d'entraînement complet ou à peu près pas. Je veux dire, ça, à ce compte-là, ça donne rien d'attendre, tu sais, puis on le sait, les journées. Quand on parle d'entraînement complet, il faut s'entendre, on distingue avec les entraînements de matin de match, là, que ça, c'est vraiment très court, c'est du 15-20 minutes. Un entraînement de journée où il n'y a pas de match, en temps normal, ça peut être jusqu'à une heure, même une heure 15 minute, des fois, là, ça peut être long. Cette saison, oubliez ça. Premièrement, il y en a moins, puis deuxièmement, quand il y en a, là, c'est souvent du 20-30 minutes intense, là, mais seulement 20-30 minutes. Donc, c'est ça, c'est un très bon point de Dominique Ducharme. Là, ça donne juste absolument rien d'attendre éternellement.
Ouais, quoique, tu sais, il y a aurait pu faire du patin par lui-même, au moins.
Ben, il va en faire dimanche.
Okay. C'est ce que j'allais dire.
C'est ça, le Canadien a un congé d'entraînement dimanche, mais un congé d'entraînement d'équipe, mais Staal, lui, l'aréna reste ouvert, la glace est disponible, donc Staal va quand même aller patiner.
C'est ça, parce qu'il termine, lui, sa quarantaine, il est disponible à partir de dimanche.
C'est
donc,
ça,
si lui peut sauter sur la patinoire dimanche, avoir un entraînement léger d'avant-match le lundi, ben, pourrait être disponible pour le lundi soir face aux Oilers Edmonton. Mais juste dire une chose, moi, je me questionnais, moi aussi, là-dessus, je me disais, tu sais, le gars, 36, fait 16 jours que t'as pas est-ce que tu embarques immédiatement dans l'action? Mais hier, dans le point de presse après le match, quand Dominique Ducharme a dit, tu sais, ça se peut qu'on demande à Jake Evans d'aller à l'aile, de jouer à l'aile. Ouais. Ça veut dire, oh, c'est parce que Rick Staal s'en vient et là, on tente. Tu sais, tu peux pas te priver de la fougue de ce que Jake Evans a fait dans le match hier. Puis là, tu as besoin de l'expertise, l'expérience, puis tu veux immédiatement lancer dans le bain Rick Staal.
En tout cas, je vais vous dire une chose, les gars. Après avoir vu les deux derniers matchs du Canadien, après une semaine de congé, puis les gars avaient pas patiné et tout ça, je suis en train de me poser la question s'il y a des organisations qui vont voir différemment les périodes de repos. Parce que normalement, quand les gars ont une semaine de congé, là, on prend un congé pendant un certain temps, 3-4 jours, mais après ça, on revient normalement à l'entraînement parce qu'on veut justement pas que les gars deviennent rouillés et tout ça. On parle souvent de ça, mais là, on voit comment le Canadien est sorti. Michael, deux matchs pratiquement parfaits, on va se le dire, du Canadien face aux Oilers et aux Sénateurs. On a donné un but à la toute fin hier, mais mis à part ça, rien à reprocher au Canadien. Moi, je suis vraiment agréablement surpris de ce que j'ai vu dans ces deux matchs. Très surpris.
Ouais, moi aussi, sincèrement, j'ai aimé ce que j'ai vu de la part du Canadien. Tu sais, bon, est-ce qu'il y a eu aussi pas de grandes performances de l'adversaire? Tu sais, on peut toujours voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Là, moi, je vais le voir à moitié plein parce que je me posais des questions sur cette période de repos-là, quel effet ça aurait et tout ça. Puis, tu sais, de voir Staal s'amener dans un bon moment quand même de l'équipe là, tu sais, si tu as l'impression que tu le lances dans la mêlée puis que là ça devient comme ton sauveur, celui qui doit transporter l'équipe, ben là c'est plus délicat, tu sais, fait que il va rentrer dans une phase qui est intéressante puis l'équipe va bien. Moi sincèrement, je trouve que ils ont retrouvé de l'aplomb, ils semblent plus solides, ça il y a des joueurs qui semblaient un petit peu essoufflés ou qui semblaient se chercher, qui là jouent beaucoup mieux. C'est très tôt là dans le processus, mais moi, pense que, tu sais, comme deux premiers matchs après cette séquence-là, c'est dur de demander mieux de la part du Canadien.
Ça, c'est certain. Je veux dire, on pouvait pas demander mieux. Et d'ailleurs, c'est curieux un peu, mais les joueurs qu'on aurait pu peut-être commencer à réfléchir à savoir qui sort de l'alignement lorsque Staal va rentrer, Armia éventuellement, des gars qui étaient un peu sur la bulle, là, on peut appeler ça comme ça. T'sais, j'en nomme quelques-uns, mais il y en a d'autres aussi. Tatar, Lekkonen, Byron et Evans ont joué de très bons matchs.
Ben là, t'enlèves Tatar en partant parce qu'il fait partie du trio le plus productif.
Ben c'est ça. Non, là, mais tu sais, il y avait un moment où tu sais, ça allait pas trop bien.
Disons que c'est ça, en début de saison...
Là, t'en as besoin. Là. Écoute, ben, Dano, là, mine de rien, Philippe Dano, là, c'est 2 buts, 6 passes, 8 points, c'est 5 derniers matchs dans le cas de Philippe Dano. Puis si on prend le trio complet, c'est quoi, 22 points? Pardon. Ouais. Aux alentours, 22 points. C'est le trio qui fonctionne le plus présentement. Ouais. Fait qu'enlevons Tatar de l'équation.
Exact.
Mais par contre, je pense que... Oui, là, on est surpris de voir comment ça va bien. Moi aussi, je suis content de voir ça. Mais il y a des trios qui n'arrachent. En fait, celui de Suzuki, celui de Josh Anderson, celui de Drouin, c'est moins facile pour eux autres. Puis, tu sais, je veux pas cracher dans la soupe, comme le dit si bien Danny Dubé. Mais je veux pas cracher dans la soupe, mais eux devront en donner davantage.
Ouais. Mais je pense pas qu'ils sont à risque. C'est pas des gars qui sont
non.
à risque.
Ah, non, pas du tout, même pas pour eux.
Mais tu sais, moi, je regarde les matchs avec mon fils, okay? On regarde tous les matchs et tout ça. Il dit, écoute, quand le Canadien a repris mardi, j'ai jamais vu les Lekkonen de même. J'ai jamais vu bouger de même.
Mais hier, dans le match, c'était un peu plus ralenti, par contre.
Non, mais mardi, là, ça paraissait que c'était un gars qui avait le feu au derrière.
Ouais, exact. Non, c'est, mais moi, tu sais, de la façon que je vois les choses aller, bon, évidemment, Frolic, ça va être un choix facile, là. Je pense que Frolic a pas, personne lui doit rien, donc lui va sortir. Donc on peut dire, OK, Staal revient, Frolic sort. Moi, c'est Armia, je me demande, est-ce que t'es vraiment obligé de leur faire jouer tout de suite, Yoel Armia? Est-ce qu'il t'en a assez montré pour mériter que tu sortes justement un de ces gars-là? Je sais pas. T'sais, surtout, en plus, c'est un des arguments qui jouait en faveur d'Armia, c'était son gabarit. Mais là, tu rentres Eric Staal, qui est un autre gros gabarit aussi. Fait que là, tu te ramasses avec Staal, avec Josh Anderson. T'sais, tu commences quand même à être un petit peu plus gros en avant. J'ai Kotkaniemi, c'est quand même un 6'2", t'sais, qui certains soirs va
mais oubliez pas, Dominique Ducharme,
Corey Perry.
Dominique Ducharme l'aime beaucoup, Yoel Armia. T'sais, ben, il l'aime
donne
beaucoup.
Des chances.
Mais... Ouais, exactement. Il veut que ça fonctionne. On pense du côté du Canadien qu'Armia a des mains magiques. C'est vrai.
Oui, c'est vrai.
Il y a de bonnes mains, mais tu sais, est-ce qu'on va laisser le temps au gars de récupérer? Moi, je pense que oui aussi. Là, puis, juste dire que Toffoli, qui n'est pas de la formation, un moment donné, il va falloir qu'il revienne.
Il va revenir lui aussi.
Fait que là, il va y avoir congestion en quelque part. Là, c'est clair. Ouais,
c'est certain. Pas seulement sur la patinoire, mais aussi au niveau de la masse salariale. Il va falloir faire de la place. On va y revenir un peu plus tard, mais on dit souvent dans le monde du sport qu'il ne faut pas changer une formule gagnante. Mais le Canadien a joué pratiquement un match parfait mardi. Et ils ont quand même décidé de faire un changement de gardien. Price avait obtenu le jeu blanc. C'était le jeu blanc, soit dit en passant, le plus facile de l'histoire de sa carrière. Hein. Je pense 16 tirs au filet.
Ouais, ben, 17, finalement, après le match, ils ont rajouté un 17e tir, finalement. Donc, ça égalise. C'est ça. C'est
Dominique Hachek qui a dit que le jeu blanc le plus facile.
mais la différence, c'est que Price, il l'a pas dit, lui.
C'est ça, exactement. C'est ça,
exactement. Bon, il dit pas grand-chose de toute façon, anyway, là, mais ça, c'est une autre histoire. Mais, Michael, j'ai été surpris de voir Jake Allen devant le filet. Après une semaine complète de congé, ton numéro 1 arrive, gagne le match par blanchissage. On sait que Jake Allen, pour toutes sortes de raisons, ne gagnait plus depuis 2 mois. Là, on va en parler dans quelques instants. Mais moi, cette fameuse philosophie de « on change pas une formule gagnante », là, j'haïs ça. Je trouve que c'est mauvais. C'est non, faut que tu t'adaptes à la réalité du match suivant. Ça veut pas dire que ça a marché dans le premier match, que ça va marcher de la même façon dans le match suivant. Et là, ben, il a roulé les dés, même s'il y avait des journées de congé avant hier et aujourd'hui. Il est allé avec Jake Allen et ça a fonctionné quand même.
Oui, exactement. Puis, tu sais, il y avait aussi l'effet qu'il n'avait pas joué depuis le 19 mars. Tu sais, à un certain moment donné, après une pause, on parlait de la pause tantôt, ben lui, il jouait pas, là. Donc, c'était judicieux de le ramener à ce moment-ci. Écoute, disons, tu sais, dans le début de la saison, ils s'en sont tenus à ce système-là qui leur donnait des résultats peut-être aux yeux de certains qui étaient peut-être pas convaincants, mais tu sais, ils devaient le remettre là, devant le filet. Est-ce que c'était une bonne chose de le remettre tout de suite? Changer? Moi, sincèrement, j'achète pas ça non plus. Là, on change pas une formule qui est gagnante. C'est la formule qui est gagnante, c'est celle que tu décides qui est la mieux pour toi. Puis c'est pas tout le temps la même. C'est pas de répéter tout temps les mêmes choses contre des, avec, contre des adversaires qui sont différents aussi. Fait que moi, j'étais tout à fait à l'aise de le voir revenir, puis enfin de le voir avoir un petit peu de contribution de l'attaque, là, ah. Parce qu'il n'y avait jamais de souffle, il n'y avait jamais de break. Comment tu veux gagner des matchs quand ton équipe marque un but, en marque pas?
Statistique, là,
enfin, il l'a eu. T'sais.
Ça faisait 2 mois qu'il n'avait pas obtenu plus que 3 buts. Et de son attaque. Et d'ailleurs, c'est arrivé une fois seulement dans les 2 derniers mois qu'il avait eu 3 buts. Toutes les autres fois, c'était 0, 1 ou 2. Fait que je sais pas comment expliquer ça, là, mais...
C'est ça. Non, ça met de la pression sur un gardien, il n'y a aucun doute. Mais moi, l'élément de formule gagnante, si on veut, du Canadien, et je remonte au dernier match avant la pause aussi, oui, ça avait fini un haut pointage, 5-4, mais le Canadien avait seulement accordé 18 tirs au Canucks ce soir-là. Mardi, 17 tirs accordé. Hier, 23 tirs.
On commence à avoir une tendance.
Je pense que moi c'est cet aspect-là, je trouve, dans la séquence de 3 victoires du Canadien qui m'impressionne le plus. Puis d'ailleurs, tu sais, oui, Price a eu le blanchissage mardi, mais est-ce qu'on se souvient d'un de ses arrêts?
Non, c'est sûr. Non, j'ai dit ça.
Même,
ça...
Est-ce qu'il y a eu des surnombres contre lui? Est-ce qu'il y a eu des échappées?
Il y en a eu 2 où il y a des attaquants qui sont revenus pour couper justement un surnombre. Nick Suzuki, Jonathan Drouin, entre autres, sont venus sauver ce genre de séquence-là. Ouais. Fait que tu vois que... Moi, je vais prendre la balle au bon, puis je veux juste dire qu'hier, dans le point de presse de Dominique Ducharme, il y a des choses qui ont été dites qui, pour moi, veulent dire beaucoup. Tu sais, il y en a gros qui ont critiqué un peu la façon de communiquer de Dominique Ducharme en disant « Ouais, tu sais, es-tu capable de faire ça? » Il parle pas beaucoup, mais quand il parle, il dit des choses qui sont importantes. Il a dit hier, il y a des choses qui sont non négociables avec les gars. Que ce n'importe quel âge que le joueur a ou la position, il y a des choses qui sont non négociables. Et ça veut peut-être dire bloquer des lancers, ça veut peut-être dire faire des replis défensifs, ça veut peut-être dire que quand t'es pas en possession de la rondelle, t'es pas en train de tricher pour t'en aller à l'attaque, tu joues, on appelle ça jouer D-side, tu joues du côté défensif de la rondelle. Fait que tu vois, progressivement, on est en train de voir un club qui ressemble vraiment à un club de hockey. Un club qui est en train de contribuer collectivement à vouloir connaître un succès. Pour moi, je trouve que ça commence à prendre place.
Ben justement, notre patron Michel Tremblay voulait qu'on ajoute cette question-là. Est-ce qu'on commence à voir une tendance réelle de ce qu'amène Dominique Ducharme? Est-ce qu'on voit un style de jeu différent? Moi, j'ai un petit peu de difficulté à le voir parce qu'il y a quand même eu des hauts et des bas. Tu sais, il y a eu des matchs où tu te dis, hey, coudonc, on dirait que c'est même pas la même équipe. Ouais. Sauf que, comme Guillaume l'a mentionné, là, ça fait 3 matchs. On voit qu'on est capable de garder des tirs en bas de 20. Pour moi, les 2 derniers matchs qui ont été excellents, là, écoute, c'était la première fois de la saison que Dominique Ducharme avait une semaine pour travailler sur quelque chose.
Exact.
Hein, quelque chose. Et là, on a vu du concret. C'est sûr que c'est juste 2 matchs. On va continuer de voir qu'est-ce que ça nous amène.
Écoute, je veux dire quelque chose, puis après, je vais entendre Michael. Michael, je vais te faire une pause, puis je veux que tu continues là-dessus après, OK? Là, écoutez bien, moi, je pense sincèrement que Dominique Ducharme est de la même école que Joël Bouchard, que Pascal Vincent. C'est des gars qui se sont développés dans le hockey junior ensemble. Quand Dominique Ducharme est arrivé, il a dit une chose qui est basic, mais qui est l'essentiel de tout ça. Et tu sais, le but du hockey, c'est que nos 6 gars à Atlas soient meilleurs que les 6 gars de l'autre côté. Ça a l'air simpliste comme ça, mais c'est vraiment la mentalité, c'est que chaque gars doit offrir une bonne performance. C'est pas compliqué ce que Dominique Ducharme fait, c'est juste que tu peux pas tricher. T'sais, fais ta job, fais pas plus, fais pas moins, fais ta job. Mick, tu connais le hockey junior, tu les as connus avec l'Armada, avec le junior de Montréal. Ça ressemble à ça, la philosophie de Joël, Pascal puis Dominique Ducharme, les 3 ensemble, là.
Ouais, tout à fait. Puis moi, quand il y a eu la nomination de Dominique Ducharme, il y a des gens qui me demandaient, tu sais, que bon, qui ont pas vraiment suivi le hockey junior, puis que là, bon, voyaient Dominique Ducharme comme entraîneur adjoint, mais tu sais, plutôt pas omniprésent dans les médias et tout ça, puis me demandaient à quoi doit-on s'attendre. Mais moi, en blague, je disais, regardez ses yeux. Ce gars-là communique peu, tu sais, c'est pas un grand bavard et tout ça, mais il s'est communiqué avec ses yeux, puis c'est un gars qui est dur, mais qui a pas l'air dur, entre guillemets, tu sais, c'est un gars qui est fair, qui est juste, mais qui va être dur, qui va être, tu sais, intransigeant dans la façon d'amorcer amorcer un préparer, je dirais ça, un match de hockey, puis c'est un gars hyper méthodique et tout ça, puis tu sais, quand je t'entends parler de la discipline dans le sens large, moi, je vois ça dans les traits de caractère du Canadien depuis que Dominique a pris la barre de l'équipe. Premièrement, tu sais, discipline, là, pas juste en termes de nombre de pénalités, parce que, tu sais, ça, c'est un aspect du jeu du Canadien qui est beaucoup mieux, qui s'est amélioré depuis quelques semaines. Mais, tu sais, la discipline dans la durée des présences sur la glace, la discipline dans les rots, dans les rots, repli défensif et tout ça. C'est tous des petits détails. Peut-être que le jeu du Canadien ne nous semble pas vraiment différent de ce que c'était sous Claude Julien, mais on dirait que tout dans l'application des détails, il y a plus de discipline, c'est plus serré. Puis moi, je reconnais le Dominique Ducharme que j'ai vu à Halifax, puis avec l'équipe nationale junior, puis avec Drummondville, etc., puis notamment le junior de Montréal, effectivement.
Les gars, qui sont les joueurs chez le Canadien, si vous deviez en cibler un ou deux, qui sont les plus susceptibles d'être échangés? Parce que je pense que Marc Bergevin va vouloir se donner au moins une petite marge de manœuvre. Je dis pas qu'on va obtenir...
C'est complexe, là. Hein? C'est complexe avec la, avec la masse salariale.
On va en parler tout à l'heure de la masse salariale spécifiquement, mais s'il y en a un ou deux là, qui risquent d'être échangé d'ici la date, ça pourrait être qui?
Ben, la réponse plate est facile, mais je pense que c'est Arturi Lehkonen parce que, premièrement, il faut que tu échanges un certain salaire. Là. Tu peux pas juste échanger un gars à 700-800 000. Donc, Arturi Lehkonen à 2,4 millions, dernière année de contrat. Et c'est quand même un joueur qui a des qualités. Je veux dire, il y a pas une très bonne saison en ce moment, mais non. Ça y enlève pas ses qualités, ça enlève pas que ce joueur-là, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient l'avoir dans un désavantage numérique, tu sais, puis de se dire en même temps, tu sais, peut-être que juste le bon vieux nouveau départ, là, des fois, ça peut paraître irrationnel de le dire, mais c'est vrai que ça peut aider un joueur à un moment donné.
Mais je te pose la question de même. C'est un agent libre avec restriction à la fin de l'année, OK? Il gagne 2,4 millions. Si une équipe le ramasse, est-ce qu'ils peuvent le signer pour moins ou c'est rare de voir un joueur qui...
Ben, il y a une question d'offre qualificative. Là. Tu dois déposer une offre qualificative. Ouais, exactement. Ça. Donc, c'est des trucs conventionnés, mais de ce que j'ai cru comprendre, il y a moyen de le signer à peu près au même salaire là, pour l'an prochain.
Même le même salaire, je trouve, c'est beaucoup.
Mais t'as pas le choix. T'es obligé de respecter le montant qui est placé dans la masse salariale. C'est-à-dire, si t'es un joueur autonome avec restriction, tu gagnes un certain salaire, t'as un pourcentage d'augmentation qui vient automatiquement en fonction du salaire que tu gagnes.
Mais l'autre chose, par exemple, l'offre qualificative, ça reste que l'équipe qui l'obtient aussi peut très bien dire « je t'en fais pas d'offre qualificative » et là, à ce moment-là, le joueur devient autonome sans compensation puis là, sa valeur deviendra celle du marché.
Ouais.
Puis là, donc c'est à lui après ça. Tu sais, je veux dire, s'il arrive dans sa nouvelle équipe, qui aime ça là-bas, qui est bien, mais que l'équipe veut pas lui donner, je sais pas moi, 2,2 millions, est-ce que à ce moment-là, est-ce que l'équipe fait juste, on te donne pas d'offre qualificative si tu viens jouer autonome sans compensation. Et lui, après ça, décide quand même de re-signer là, mais à 1,5 million plutôt que 2,2 en se disant, tu sais, j'aime ça là, puis c'est ça ma valeur.
Lehkonen, c'est-tu ton choix aussi ou en as-tu d'autres?
Moi, là, je disais que c'est extrêmement complexe, la masse salariale. Tu sais, en une saison régulière de 82 matchs, tu es capable de regarder ça. En temps régulier, tu regardes ça, tu évalues, tu regardes Cap Friendly, parce qu'en fait, c'est la seule référence qu'on a. C'est la seule référence que nous avons.
Une chance qu'on a ça.
Sans dire que ce sont les vrais chiffres officiels, c'est pas loin de la réalité. Mais là, il y aura, à mon avis, peut-être une étoile à donner au capologiste du Canadien de Montréal. Parce que si on arrive à faire un... Et tout à coup que Marc Bergevin et le capologiste, son nom, c'est quoi déjà?
John Sedgwick.
Tout à coup que les deux ensemble arrivent à arranger tout ça pour être capable de mettre du monde sur le taxi squad, mettre du monde un petit peu au balotage, un petit peu sur le taxi, et de garder tout le monde. Tu sais, je veux dire, dans le meilleur des mondes, c'est d'avoir, avec le calendrier, écoute, là, il y a un calendrier qui est très chargé, c'est d'avoir tout le monde, puis que tout le monde veut être en compétition. S'ils arrivent à faire ça et à faire comme un casse-tête, ajouter des pièces, ben ça sera bravo aux autres. S'ils sont pas capables, ben là, je pense que Lehkonen, c'est peut-être celui. Je suis pas sûr que Paul Byron, il y a quelqu'un qui voudra s'engager avec le contrat, le terme du contrat.
Je pense que non, parce qu'il aurait pu l'avoir pour rien, puis ils l'ont pas pris deux fois.
Ben oui.
Peut-être Joel Armia, Michael, qu'est-ce que t'en penses? Ce serait peut-être l'autre candidat?
Ouais, ben c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas énormément de candidats. Là. Paul Byron, considérant la situation, Armia, moi, écoute, ça joue dans ces deux-là, à mon avis, à moi. Il n'y a, okay. a pas. Mais comme dit Jérémy, j'aime le point de Jérémy. C'est de la gymnastique, mais elle va finir, ça finit par être payant, puis ça finit par offrir des possibilités. Ça va être un gros luxe pour le Canadien d'être capable d'arriver proche, en tout cas, de pas perdre personne. Là.
Bon, les gars, quand vous regardez le classement présentement, là, on s'entend, là, le Canadien, au moment où on se parle, a 98% de chances de se qualifier pour les séries éliminatoires. Ça augmente à chaque jour. Ils ont 6 points d'avance et sur les Flames et sur les Canucks. Ils ont 4 matchs en main sur ces deux équipes-là. Comment vous gérez la fin de la saison? Parce que là, il y a toutes sortes de possibilités. Là, c'est comme, hey, attends une minute, là, Toronto, là, si on gagne nos 3 games, on est à 2 points d'eux autres. Tu sais? D'autres vont dire, non, écoute, là, moi, ce qui est important pour moi, c'est rentrer dans les séries en santé. je veux qu'on rentre avec tous nos éléments, peu importe qui qu'on affronte. D'autres vont dire, on peut-tu au moins avancer et éviter les Leafs au premier tour? T'sais? Il y a toutes sortes de façons de voir comment tu vas gérer ton équipe, ton effectif, les repos et tout ça. Et c'est quoi ton objectif? Je sais pas comment vous voyez ça.
Ben moi j'y vais. Moi je te dis que je vais all-in sur une participation aux séries, peu importe où l'enclassement. Puis j'ajouterais même peu importe l'avantage de la patinoire.
Premièrement. Okay, donc pour toi c'est pas important où on finit, c'est rentre dans les séries. C'est
rentre dans les séries et parce que le plus vite que t'assures d'être en série, le plus tôt que tu peux commencer à donner du repos à des gars, parce que là avec le calendrier qu'ils ont, ils vont arriver en série la langue à terre.
Ben, C'est un gros risque.
Ben c'est ça. Puis là, tu sais, déjà, il déborde. Il devait finir le samedi. Déjà, il déborde au mardi la saison. Ça se peut que ça déborde encore plus. Ils vont vraiment arriver, je veux pas dire au bout du rouleau, mais ça va être une fin de saison très difficile. Donc, si t'es capable de t'assurer une place en série avec 5-6 matchs à jouer et que là, tu peux faire des petites rotations.
Je pense que ça va être avant ça. Honnêtement, ça va être avant ça parce que les Canucks de Vancouver, là, sont aux prises avec la COVID. Là, je disais un peu plus tôt aujourd'hui, on dit qu'il y aurait peut-être d'autres cas, ça se peut que ça soit plus loin que...
Parle de 8 ou 9.
C'est plus loin. Là, on disait 6 retours en pratique et le 8 retours au jeu. Moi, je pense que, comme on le disait, ça va être un petit peu plus loin. Ça, tu disais, il y a plus de...
Ils se sont rendus à 8 ou 9 joueurs. Là,
Ça veut dire qu'eux autres, ils vont rater un bon 2 semaines, à mon avis. Puis à partir de là, 2 semaines, là, quand t'es un club qui n'a arraché comme ça, t'es en retard, t'as des matchs en main, mais le défi est immense. Pas convaincu que la qualité va être là. Ça, c'est mon opinion.
Ça,
fait que ça, à partir de là, tu te dis, on va. Mec, je te laisse aller tout de suite après. Je parle trop, excuse-moi. ça, à partir de là, tu te dis, OK, le but, c'est de rentrer, comme Guillaume dit, rentrer en série le plus rapidement possible. Mais hier, Philippe Dano a dit une chose. On ouvre la machine. C'est ce qu'il a dit. On ouvre la machine. Fait que eux, là, le but, c'est, gars, le fil d'arrivée, il est là. Plus vite qu'on arrive au fil d'arrivée, plus vite on peut rotationner tout le monde, puis prendre un peu plus de repos, peut-être donner un peu plus de temps à Jake Allen. Chez Weber, peut-être faire sauter une journée ou deux. C'est ça. C'est arrive le plus vite, assure-toi d'être en série, puis après, ben, garde, advienne que pourra.
Okay. Moi, personnellement, là, on n'est pas encore rendu là, mais on n'est pas loin de commencer. Selon moi, là, intelligemment, c'est ça que je ferais. Michael, t'en penses quoi?
Ben moi, je pense que l'équipe doit préparer les séries. Puis on le sent en ce moment. Moi, j'aime ce que je vois. Ça avait commencé un petit peu avant, mais il y avait des signes. C'est encore. Il y avait des fois là qu'on disons qu'on doutait pas mal de la force du Canadien. Mais tu sais, doit préparer ce parce qu'écoute, ils vont jouer tellement de matchs là. C'est hallucinant. Ouais. Puis j'ai hâte de voir la situation de Vancouver. Non seulement le nombre de matchs canadiens Canucks, c'est pas ça qui va faire une différence, mais eux doivent affronter souvent Edmonton, Calgary, deux adversaires que le Canadien doit aussi avoir sur sa route. Alors, à quel point, si on se met à reprendre des matchs un peu plus tard, ça va avoir des impacts aussi sur le Canadien par la bande. Là. Ça, j'ai hâte de voir ça. Ouais. Puis, mais moi, je pense que l'équipe doit continuer à s'améliorer puis va arriver en séries éliminatoires prête à affronter l'adversaire qui affrontera. Là, t'sais, rendu là, moi, l'avantage de la glace et tout ça, là, avec la COVID actuelle,
ça a perdu
pas mal de son
moi, personnellement, là, je pense que la façon dont je vois ça, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'est pas encore rendu, mais bientôt, pour moi, il serait intelligent de commencer à faire des rotations. Je pense que le Canadien est assez bon pour pouvoir se priver une journée d'un joueur, que ce soit Dano, Petrie, Weber, quoi que ce soit. Mais ce que je voudrais, par contre, c'est arriver dans la dernière semaine ou dans mes 3 derniers matchs, là, c'est mes meilleurs. La pédale au fond pour commencer justement à préparer les séries.
Le bout de calendrier, je pense, disons que si le Canadien connaît pas de séquences de 6 défaites là, dans les prochaines semaines, le dernier bout, disons, très important de calendrier par rapport au classement, c'est du 14 au 26 avril où tu rencontres les Flames 5 fois. Les Flames de Calgary, c'est la... Tu regardes le classement en ce moment.
La seule équipe qui pourrait potentiellement avoir
Les Flames et les Canucks sont à égalité, sauf que bon, les Canucks, tu les affrontes plus. Donc, c'est ça. Les Flames, c'est juste que si les Flames gagnent 4 de ces 5 matchs-là, on va dire, ben là, ça, c'est sûr que ça peut te compliquer la vie pour t'assurer une place en série.
Et surtout,
donc, c'est surtout
que tu as récolté seulement 2 points sur 8 face aux Flames de Calgary début de la saison.
C'est une confrontation difficile pour le Canadien. Donc, tu sais, je pense qu'une fois que tu as passé le dernier match contre les Flames, le 26, là, après ça, il te reste Toronto, Winnipeg, Ottawa et les derniers matchs contre Edmonton. Mais tout ça pour dire que c'est ça. Faut surtout se méfier, je pense, de ces cinq matchs-là contre les Flames. Puis après ça, tu peux peut-être penser à...
Et tout ça pourrait complètement être effacé si on arrive dans le match de demain, de samedi, face aux Sénateurs, puis le Canadien ne travaille pas face aux Sénateurs. Parce que là, on prend pour acquis, tout ça, c'est une conversation où on prend pour acquis que chaque soir, le monde sont là, les joueurs du Canadien sont là pour travailler. Puis quand tu perds contre les Sénateurs, c'est parce qu'ils ont travaillé plus que toi. Ça, c'est clair.
Moi, je te dis que si tu commences à faire sauter des tours à des gars, là, tu vas voir des gars sur la glace qu'ils vont donner ce qu'ils ont à donner.
Exactement. Mais là, c'est entre les mains des joueurs du Canadien. Ouais. C'est eux qui ont la réponse. Si eux sont prêts, soir après soir, à être capables d'offrir une performance qui est plus que respectable, une performance de compétition. Là, on est en business. Sinon, on va recommencer et on va douter de tout. Là. C'est sûr que ça va repartir. Là.
On s'arrête le temps d'une courte pause. Au retour de ceci, ailleurs dans la Ligue nationale. Voilà de retour. Maintenant, c'est le temps d'attaquer ce qui se passe ailleurs dans le monde du hockey, pertinemment dans la Ligue nationale de hockey. On apprend via certains articles que le momentum vers la date limite des transactions est un peu ralenti. Pourquoi? Parce que plusieurs DG craignent déjà le prix à payer au Kraken de Seattle cet été dans le but de retenir leurs meilleurs joueurs. On se souvient de ce que les Golden Knights avaient fait il y a quelques années. Là, on l'a appris plus tard, mais bon, il y avait déjà entente entre les Golden Knights et les Pingouins pour qu'ils prennent Marc-André Fleury et tout ça dès la date limite des transactions là, pour 3-4 mois plus tard. Mais moi, j'ai l'impression que ça a l'air que le prix à payer est très élevé du côté des Golden Knights. Pas des Golden Knights, mais du Kraken. Et déjà, on est en train de mettre en garde les directeurs généraux à savoir si tu veux garder ton meilleur quatrième défenseur, là, attache ta tuque, ça va te coûter cher. Et là, présentement, ça fait ralentir les ardeurs parce que les DG disent « faut que je sois armé, faut que je sois protégé pour cet été ». Comment vous voyez ça?
Ben, ce sera pas évident. Moi, je pense qu'il y a un paquet de facteurs. Tu regardes, premièrement, les luttes aux séries. Tu sais, quand j'entendais que Nashville est vendeur, puis tout le monde n'est pas très loin. Tu sais, c'est rare, à part les Sénateurs qui sont vraiment décalés, là. Peut-être Détroit, ajouter tout ça, mais tout le monde n'est pas loin d'être en compétition. Fait que donc, est-ce que tout le monde sera vendeur? Tu sais, est-ce qu'on sera capable de reprendre cette situation-là? Est-ce qu'il y a d'autres équipes qui seront prises aux prises avec la COVID-19, qui seront privées d'action? Il y a un paquet de points d'interrogation, honnêtement. Je trouve qu'elle est difficile à planifier, puis je comprends l'histoire avec le Kraken, mais je sais tellement pas comment ça va se passer. Là.
Moi, honnêtement, l'histoire du Kraken, j'espère vraiment que les DG vont avoir appris de 2017 et ils vont comprendre que t'es mieux de perdre un bon joueur que d'en perdre deux, puis un choix de repêchage.
Exact.
Je veux dire, il y a des DG qui, tu sais, on connaît les exemples classiques. On le sait, Columbus qui a dit voici, promettez-nous de prendre William Karlsson et de pas toucher à Josh Anderson. Regardez, William Karlsson leur a donné une saison de 40 buts. Good. Les Panthers qui ont perdu Riley Smith et Jonathan Marchessault pour protéger tous leurs défenseurs. Je dirais.
Mais donc, la Ligue nationale.
Est-ce que t'es mieux de perdre deux attaquants top 6 ou de juste accepter la perte d'un défenseur top 4 puis de dire c'est ça, je suis mieux de perdre un élément plutôt que deux ou
non, mais si on vient pas fou, c'est exemple, il réclame Joel Edmondson.
Ben oui, mais c'est ça.
Je pense que ça se remplace, là.
Ouais. Honnêtement. Mais ce que je veux
mais
dire,
bon, c'est bon, quand
même,
pas tant,
mais ouais. Toutes les équipes doivent quand même comprendre que c'est ça, à trop essayer de planifier, là, je veux dire, tu vas te faire mal au bout du compte, puis t'es aussi bien de juste accepter une perte. Puis,
Mais Michael, la Ligue nationale, c'est pas un petit peu mis un doigt dans l'œil, parce que je pense que, souvenez-vous, on est tous de la même époque ou à peu près, là, si on recule il y a 20 ans, les équipes arrivaient dans la Ligue nationale, ça prenait 5-6 ans bâtir une équipe, parce que les clubs étaient tellement mauvais, les clubs d'expansion. Là, on a voulu que
le prix des franchises a légèrement changé depuis ce temps.
Je comprends, mais on a voulu que Vegas ait tout de suite une chance d'avoir une équipe compétitive. Je pense qu'on leur en a donné peut-être un peu trop. Et là, ben t'as pas le choix que d'offrir la même affaire au Kraken. Parce que le Kraken nous dit, oh, attends une minute, là, s'il y a une couple d'années.
On a payé 650 millions.
C'est ça. On a payé plus, nous autres, que les Golden Knights. On peut-tu en avoir pour notre argent? Et là, ben, si on fait bien les choses du côté du Kraken, on pourrait se retrouver avec une équipe quand même assez redoutable.
Oui, tout à fait. Puis, tu sais, on l'a senti qu'avec Vegas, la Ligue nationale s'est quand même, tu sais, a mis le paquet. Là. On voulait aider cette équipe-là à partir du bon pied. Puis, tu sais, quand tu arrives dans un marché que tu veux exploiter, que tu veux développer, que tu as l'impression que, bon, il t'a une bonne base de partisans, tu sais, Seattle, j'ai hâte de voir. C'est un vrai marché de hockey, là. Lorsque, tu sais, je me suis replongé dans le début du siècle avec mon projet de livre, j'allais vu à quel point, tu sais, les racines sont très profondes là-bas. Mm-hmm. Mais en même temps, si ça prend 5 ans, 6 ans, comme tu le disais, pour établir une espèce de culture gagnante, développer, tu sais, que l'intérêt soit là, les séries éliminatoires, tout ça, bien, tu sais, au prix qu'ils payent, comme vous avez mentionné, c'est sûr que tu veux leur donner une chance, mais je me demande à quel point, tu sais, justement, la Ligue nationale s'est tellement aventurée loin à essayer de faciliter la vie du directeur général, de l'équipe d'expansion, si ça fait en sorte que ça ne crée pas une distorsion un petit peu dans le système. Là, tu sais, c'est-tu normal qu'une équipe d'expansion quasiment... je dirais pas menotte les autres équipes, mais tu sais, on le sent qu'ils ont un énorme pouvoir sur le marché pour aller recruter les joueurs. Alors c'est intéressant parce que dans le fond, je pense que tout le monde tire profit d'une équipe d'expansion qui connaît du succès dès le début, mais en même temps, tu sais, c'est quand même c'est un petit peu c'est sûr, ça place tout le monde un peu dans une situation très inconfortable.
Ouais, mais en parlant du Kraken et des Golden Knights, ils dépensent tellement que hier soir contre le Minnesota, il n'y avait même plus assez d'argent disponible sous le plafond salarial pour habiller 20 gars. Ils en ont seulement habillé 18. Ils ont tout dépensé leur argent et présentement, ils se retrouvent dans une situation très compliquée.
Ouais, puis là, il y avait un blessé. Il y avait Zach Whitelord blessé. Il y avait Chandler Stevenson suspendu. Donc
ils ont dû rappeler d'urgence un défenseur de la ligue de leur club ferme et tout ça. Mais est-ce qu'on s'en va vers ça de plus en plus? Peut-être même chez le Canadien, parce que le plafond salarial n'augmentera pas. Il n'y aura pas d'allègement à ce niveau-là. Moi, les gars, j'aime pas ça. J'aime pas voir une équipe ne pas être capable d'habiller 20 joueurs. Moi, ce que je dis, c'est que si t'es pas en mesure, à cause du plafond, d'habiller les 20 joueurs réglementaires, ben t'enfreins les règlements de la Ligue et tu dois avoir une pénalité. Ça peut pas être ça la solution. Ah bon, oui, on va d'habiller juste 15 à soir, y a pas de problème. Puis, tu sais, au pire, on perdra. Puis... T'sais.
OK, mais c'est compliqué un peu la question, mais écoute, en temps normal, je reviens toujours avec le temps normal, une saison de 82 matchs, la majeure partie des joueurs veulent pas mal tous, si t'es attaquant, jouer entre 20 et 25 minutes. Fait que en quelque part, moi, je me dis... En fait, on s'est toujours habitué aux 4 trios avec les gars, 6 défenseurs, 7 défenseurs. Je pense, sincèrement... Je pense que t'es capable d'évoluer. Moi, je pense que t'es capable de jouer un match donné. Je dis pas toujours, mais t'es capable de connaître du succès à trois lignes parce que c'est sensiblement mais ça.
Pendant combien de games tu peux
faire? Pendant combien de matchs? Je suis d'accord. Il y a des blessures. Il y a plein d'affaires.
Ça a fini 3-2 seulement. Ils ont perdu 3-2.
Mais je suis d'accord qu'il y a des blessures. Mais regardez ça, là. Si on raccourcit les présences, si t'es plus efficace, ça donne un jeu qui est plus rapide. Je suis pas convaincu qu'on a toujours besoin des 4 trios.
T'en as pas besoin, mais t'as une association des joueurs qui protège 23 joueurs dans 32 équipes. Ça changera jamais. Puis c'est d'ailleurs pourquoi aussi ce que Vegas a fait, c'est seulement permis en cas d'urgence. Ils appellent ça le roster emergency exception. Parce que c'est ça, je disais, sinon, c'est sûr que l'association des joueurs n'a pas le choix de réagir parce qu'il y a des équipes. Là, c'est des problèmes de plafond salarial, mais dans d'autres cas, ça serait des équipes peut-être où le proprio a moins d'argent puis qui dit on pourrait peut-être économiser un petit peu comme ça cette année.
As-tu vraiment besoin de quatrième joie de sort?
Toi, tu es capable de gauler.
Que je verrais, tu sais, mais donc c'est ça, donc c'est des garde-fous que l'association des joueurs aussi a des balises là, que l'association.
En tout cas, on n'aime pas voir ça. Ça fait un peu bric-à-brac, ça fait un peu ligue de garage, en espérant qu'on puisse trouver une solution.
Mais c'est déjà arrivé, hein. C'est pas.
Oui, c'est
moi, je pensais que c'était les Pingouins. Tu me disais c'est les Devils.
C'est les Devils. J'ai retrouvé entre temps, ils l'ont fait 9 fois les Devils.
Ça a l'air que depuis l'instauration, ça se dit. Oui. L'instauration du plafond salarial, c'est arrivé 56 fois. Il y a eu 56 matchs où une équipe n'a pas été en mesure d'habiller les 20 joueurs.
C'est quand même pas beaucoup. Il y a 1200 matchs par année fois 15-16 saisons depuis le plafond. Donc, c'est ça. C'est réellement des exceptions.
Ouais.
Mais c'est sûr que le contexte de cette année, puis en plus, avec des fois, ça peut être plus compliqué de rappeler des joueurs. C'est sûr que ça peut faire en sorte qu'on va voir d'autres situations comme ça cette année.
Bon, il y a deux joueurs étoiles cette semaine qui s'en sont bien tirés, on va se le dire. Michael, je vais te laisser commenter là-dessus en premier. Nathan MacKinnon, hier, a lancé son casque au visage d'un adversaire. Il l'a pas garoché, là, il l'a vraiment comme lancé par en dessous. Là. C'est comme une petite balle molle là, dans ta ligue de bière. C'était pas extrêmement violent, mais quand même, pas des gestes qu'on aime voir sur la patinoire. Il y a aussi Connor McDavid cette semaine qui a asséné un coup au visage de KK, un coup de coude, il s'en tire avec une amende. Disons que quand on dit deux poids, deux mesures, je vais juste vous raconter une petite anecdote là avant de te laisser partir là-dessus. J'étais à Boca Raton, je recule il y a peut-être 10 ans de ça, tu sais, à la rencontre des directeurs généraux. Puis là, il était question de violence en Ligue nationale. Puis je pense qu'on parlait de bâton au visage. À ce moment-là, il était question de peut-être une expulsion au lieu d'un 4 minutes ou 5 minutes. Je me souviens plus exactement. Puis là, je me retrouve dans un coin avec Gary Bettman. J'étais tout seul avec. Puis là, je dis, peux-tu m'expliquer c'est quoi la motivation de pas vouloir aller plus loin, tu sais, dans les disciplines puis tout ça. Puis il m'avait dit, ton micro est fermé. Je dis oui. Il dit, écoute, il dit, penses-tu que ça me tente de me retrouver avec un Ovechkin suspendu pour une game à cause d'un bâton élevé? Puis là, j'ai du monde qui achète des billets pour la prochaine game. Puis là, Ovechkin, il est pas là parce qu'il est blessé. Il est suspendu à cause de... Fait que, dans le fond, ce qu'il me disait, c'est que nous autres, les joueurs étoiles, là, on veut pas les suspendre. On veut qu'ils soient là. On veut qu'ils jouent. Puis ça ne nous dérange pas de leur donner un traitement préférentiel. Michael?
Wow. Ben, écoute, tu sais, c'est une réponse qui moi, qui me trouble un peu parce que moi, je. Oui, tu sais, les joueurs vedettes, je sais que c'est le pain et le beurre des circuits professionnels. Ça, on convient tous de ça. Puis, tu sais, on en revient même au débat lorsque les joueurs refusent d'aller au match des étoiles. Tu sais, comment qu'on traite ces cas-là et tout ça. Mais, tu sais, à un certain moment donné, ça devient du deux poids, du deux mesures, puis ta protection là, de tes joueurs et par le fait même tes joueurs vedettes, ben, tu sais, je veux dire, si tu sanctionnes pas les gestes qui ont pas de bon sens, les 5 000 $ par-ci, 5 000 $ par-là, tu sais, ça devient bidon, là, ça devient complètement, c'est plus, c'est comme ça devient une ligue à deux vitesses. Moi, j'achète pas ce, tu sais, je suis un peu renversé.
Mais c'est la réalité, ça, c'est ça l'histoire, c'est qu'on a beau dire oui, n'importe quoi, mais c'est la réalité.
Ben oui,
c'est
comme ça que ça marche. Mais tu sais, si mettons, là, on est en, il y a pas de pandémie, puis il y a des partisans des estrades, puis tout ça, puis Connor McDavid est suspendu pour son geste, OK? Y a-tu vraiment un partisan qui va dire « maudite ligue de broche à foin » ou ils vont dire à Connor McDavid « maudit imbécile, pourquoi t'as fait ça? » C'est lui le responsable là, sur ce geste-là.
Ben, tu sais, on sait aussi, par contre, la réputation des joueurs, ça compte. Puis d'ailleurs, c'est même conventionné. Tu sais, t'as un statut pour ce qu'on appelle des récidivistes, exactement.
Donc, c'est un récidiviste. Il y avait une suspension pour un coup à la tête.
Ben c'est ça, exact. Donc, tu sais, il y a ça qui joue dans la balance, sauf que, bon, c'est peut-être pas un récidiviste au même type que peut-être Tom Wilson et Brad Marchand, tu sais, aux yeux de la Ligue. Mais c'est ça, donc, tu sais, on a mis en place ces trucs-là pour justement équilibrer. Mais clairement, je pense que quand c'est un joueur, justement, vedette comme ça, qui fait vendre, ben là, je veux pas dire vendre des billets, mais qui génère de l'intérêt... Regarde, je pense que ça fait partie de la...
Si KK reste à terre, assommé, là, puis il sort sur une civière, là, on fait quoi avec ça?
Ah, il est suspendu. Un match, deux matchs. C'est absurde. C'est complètement absurde. Puis savez-vous, j'ai l'impression qu'on gère plus la perception qu'on gère le geste sur la patinoire.
La gravité du geste.
On gère la perception, puis on gère la conséquence aussi, ce qui ne devrait pas...
La conséquence, c'est horrible qu'on fasse ça. Ben premièrement, c'est horrible qu'on fasse ça. Ça, c'est inhumain qu'on fasse ça. Qu'on gère juste s'il y a une blessure, si la blessure est grave, qu'on donne plus de suspension. C'est complètement absurde. Ça, c'est une chose. Encore pire, c'est gérer la perception, l'image de la Ligue. Moi, je vous le dis, là, avec le coup de coude de Connor McDavid, après la rencontre, j'en parlais avec Danny Dubé qui me dit, tu sais, c'est McDavid. Il y a des fortes chances qu'on l'appelle même pas. Et là, tranquillement, pas vite, on voit Hockey Night in Canada, Sportsnet. Là, dans le Canada anglais, on commence à tourner la clip de McDavid en disant, bon, OK, allez-y donc, vous pensez quoi de ça? Et là, ça a commencé à tourner. Fait que là, la Ligue nationale voit, wow. OK, c'est pas juste à Montréal qui chiale, là. Attends, là, il y en a d'autres, là. On paraît pas bien là-dedans. Fait que
donc, une affaire.
Ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné 5 000 $ d'amende à McDavid. Ouais. Au moins, on l'a fait.
Moi, là.
Je pensais qu'on le ferait même pas.
J'ai toujours pensé que le Canadien avait du poids dans cette maudite ligue-là. Mais c'est sérieux, là.
Je pense pas, moi.
À rien. À zéro. Parce qu'il y en a-tu des gars qui ont mangé des claques à gueule cette année chez le Canadien? Beaucoup. Il s'est rien passé. Beaucoup. Pas de suspension, pas d'amende, pas rien. C'est pas la première fois, là. Non, ils se font pas respecter, pas en tout. Pas pour deux scènes. Moi, j'étais Jeff Monson, là. En tout cas, je pèterais des coches, mais ça, c'est juste moi.
Sommes-nous surpris?
Ah, ouais. Ça marche par péter des coches.
Ouais, ça marche.
T'as jamais appelé au service à la clientèle péter des coches?
Non.
Les résultats sont meilleurs.
Ouais, je sais pas c'est quoi le service à la clientèle auquel où Jeff Monson peut appeler, par exemple. Là, ça, c'est l'autre chose.
Ça raccroche tout de suite. Bon, petit pause et on y va avec les questions du public. Voilà de retour. Allons-y maintenant avec les trois questions que j'ai retenues du public cette semaine. Question de Frédéric Ouellette, qui est une question très pertinente parce que lorsqu'il me l'a envoyé, le dossier des Canucks n'était pas encore tombé, là, c'était pas encore clair. Quels sont les scénarios envisageables si d'autres équipes de la division Nord devraient entrer en contact avec plusieurs joueurs qui ont la COVID et tout ça? Là, on en a parlé tout à l'heure, là, presque 9 joueurs.
Mais écoute,
parce que là, moi, quand j'ai vu qu'on a refait le calendrier pour l'affaire du Canadien, je me suis dit, oh, mais attends une minute, là, s'il y en a d'autres, on fait
ça continue.
Quoi?
C'est déjà, pendant qu'on enregistrait, la Ligue a envoyé une mise à jour. Il y a un match entre les Sénateurs et les Jets qui était prévu le 7 mai. On vient de le reculer au 5 avril.
C'est...
Donc déjà c'est reparti le plus.
Mais pourquoi pas tout de suite ajouter une semaine à la saison?
Je pense qu'ils n'auront pas le choix, du moins pour la division canadienne. Je pense qu'ils n'auront effectivement pas le choix parce que là, on l'a vu, là, l'impact de un seul cas chez le Canadien a eu des impacts sur les calendriers de 6 des 7 équipes de la division. Il y a seulement Vancouver qui n'a pas eu d'impact dans son calendrier quand on a tout annoncé.
Sa séquence était finie contre les Canucks.
C'est ça, exactement. Puis ça donne aussi... Mais tu sais, parce que c'est pas juste des matchs avec le Canadien qui ont été bougés, tu sais. Mais bref, dans tout le réaménagement, seuls les Canucks n'ont pas été touchés. Là, c'est les Canucks eux-mêmes qui sont touchés. Ça va engendrer des conséquences. Là, déjà, les Jets et les Sénateurs en ont. Et puis, ben c'est ça, ça va continuer comme ça. Puis on l'a vu, là, chez le Canadien, je veux dire, s'il y a d'autres changements, c'est à peu près impossible
d'ajouter
ce qu'on a.
C'est impossible.
Donc,
mais Michael, à partir de quand là, on va commencer à utiliser le fameux règlement qu'on avait dit qu'on allait utiliser, c'est-à-dire le pourcentage des points obtenus par match?
Ben écoute, s'il y a une autre éclosion dans une équipe canadienne, moi je pense que c'est quasiment, tu sais, ça va devenir mathématiquement, ça va être très très difficile de compléter une saison, même en essayant d'ajouter des matchs après. C'est ça, deux matchs en même journée.
Dans le junior, on le fait tu non, on le fait, ben, on fait trois matchs en trois jours par contre.
Ah ouais, mais pas dans la même journée.
Mais la seule chose, c'est sûr que je pense que c'est logiquement le plus simple, surtout en plus que la ligue veut pas. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que la Ligue veut pas que les séries débordent trop loin en été parce que, premièrement, il y a les Jeux Olympiques
avec
et
NBC,
les codes d'écoute l'été dernier, ça a pas été fameux du hockey au mois d'août, là. Donc ça, la Ligue le sait. Alors, c'est ça. Donc, tu peux pas trop déborder. Par contre, c'est sûr que d'un point de vue d'intégrité sportive, si t'es, je sais pas moi, si t'es les Maple Leafs de Toronto, que t'as joué tes 56 matchs de la saison, puis là, ben, ton adversaire arrive puis il a seulement joué 52 matchs, et tu sais, parce qu'on peut à tout reprendre les matchs, ben là, tu dis, OK, est-ce qu'on se bat à armes égales, tu sais, est-ce que, c'est quoi l'intégrité de cette série-là? Donc, tu sais, je pense que ça va être des points super, assez difficiles à trancher pour
les Mais je reviens peut-être avec l'importance, Philo, je veux faire ça vite, là. Ouais. Revenir avec l'importance de gagner des matchs rapidement pour le Canadien, c'est-à-dire, plus rapidement que tu colles des victoires, plus rapidement que tu vas chercher des points, plus tu vas créer de l'espace avec et les Canucks, et les Flames, et les Sénateurs. Et ça va, à mon avis, rendre la tâche beaucoup plus facile à la Ligue nationale de hockey. Si tu vois que tu as vraiment 4 clubs qui sont
détachés,
okay, c'est détaché, c'est eux autres qui vont aller dans les séries. Regarde, on va y aller.
On mettra pas des matchs juste pour mettre des matchs.
Mais non, c'est ça. On va pas compliquer la vie de tout le monde quand tu sais que c'est ces 4 clubs-là qui vont faire la différence, tu sais.
Ouais, ça fait du sens. Question de Jacques. Jack Kerouac. Si tout le monde est en santé chez
Canadien. Est-ce que c'est le vrai Jack Kerouac?
Laisse pas penser à ça.
Pensez la peau. Si tout le monde est en santé, où devrait jouer Eric Staal? Se contentera-t-il d'un rôle de quatrième centre? On pourrait aussi ajouter Toffoli, ça c'est moi qui l'ajoute, mais on a parlé un petit peu tout à l'heure. Peut-être Kevin pourrait glisser à l'aile. Est-ce que Staal va se contenter d'un rôle de joueur de centre de quatrième trio?
Je pense qu'il connaît sa situation. Là. Je veux dire,
malgré que dans le point de presse, il dit, moi, je cite pour jouer 25 minutes.
Oui, voilà.
Mais en même temps, là...
Non, mais j'ai trouvé ça bon qu'il dise ça.
Non, mais en même temps, avec des retours de gars comme Toffoli puis Eric Staal, Michael, tu pourrais te retrouver avec quatre lignes où tu pourrais pas nécessairement distinguer la troisième de la quatrième. On s'entend-tu là-dessus?
Ah, okay. C'est sûr qu'on s'entend là-dessus. Puis c'est une équipe assez balancée quand tu regardes là, puis là, bon, le premier trio en termes de production là, ça, en ce moment, c'est le trio de Gallagher. Puis c'est comme si que ça devient un peu interchangeable. Tu sais, ça, on y va. Le premier trio dans le fond du Canadien, ça devient le trio qui fonctionne. Puis après ça, ben le deuxième, on s'ajuste avec ça. Donc, moi, sincèrement, Staal, je pense que son jeu, ses performances vont dire où est-ce qu'il doit jouer. T'sais, il va forcer la main ou est-ce qu'il va être un peu... il sera pas un facteur décisif. Je pense qu'on va s'ajuster en fonction de ce qu'il va être capable d'avoir comme contribution. Puis, tu sais, moi, écoute, si ça doit être un rôle de quatrième centre parce qu'il est pas meilleur que ça, il a pas plus d'impact que ça, ben ce sera ça. Mais moi, tu sais, je suis quand même confiant de voir que il peut répondre aux attentes, là. Mais dans le fond, c'est entre ses mains.
Moi, je vais vous dire une chose, c'est que ça va permettre à Dominique Ducharme d'avoir des options qu'il n'y a pas depuis le début de la saison. Exemple, si tu as un Nick Suzuki un soir qui travaille à moitié, mais que tu es obligé de le prendre parce qu'il y a une belle créativité offensive, ça se peut que Rick Staal aille faire une coupe de présence avec Drouin et avec Josh Anderson. Si tu as un Keke qui un soir donné, lui, est perdu comme un Bambi sur l'autoroute 30 avec les phares dans les yeux, mais ça se peut que Rick Staal aille faire une coupe de présence. Ça veut pas dire que c'est ton deuxième centre ou ton troisième, mais ça se peut qu'ils disent aux jeunes, hey, garde. C'est parce que lui est capable de faire la job, fait que allume,
tu sais. Puis on sait que Ducharme aime ça faire ça pendant les matchs. On l'a vu beaucoup le faire à l'aile droite dans les dernières semaines. On le sait là, il utilisait Corey Perry souvent dans ce rôle-là justement. Corey Perry commençait le match quatrième trio. Puis là, ben de temps en temps, hop, Armia s'endormait, ben Perry allait faire une deux présences sur le deuxième ou troisième trio, peu importe. Donc tu sais, Ducharme a pas peur de faire ces rotations là. Puis effectivement, ça Staal donne cette option là parce que c'est sûr que c'est tu montreras pas Jake Evans avec Drouin puis Toffoli pour remplacer Suzuki. Je veux dire, t'avais pas cette option-là. Je pense qu'effectivement, tu l'as avec Staal.
Bon, la dernière question, celle de Steph 257 qui nous pose la question, malgré l'influence des médias et l'amour aveugle du CH par ses fans, est-ce que le Canadien est réellement un prétendant si on regarde ou on compare avec le Lightning, Vegas, les Capitals, Islanders, Colorado et les autres clubs n'ayant pas 9 points de médiocrité pour gonfler leurs chiffres? Hey, résumons la question, là, est-ce que le Canadien est un prétendant?
OK, cher monsieur 257.
ou madame, c'est Steph.
Ah ben oui, ben
Steph,
ah,
c'est monsieur, vrai. Non, je pense que c'était un gars.
OK, bon, cher monsieur 257, en fait, est-ce que le Canadien a un club comparable à ces grosses formations-là, Lightning, Vegas, puis tout ça? La réponse est non. La seule chose, c'est que quand t'es dans une situation de compétition, t'as quand même deux formations sur la glace. Il y a une formation qui est mieux nantie pour la saison régulière, clairement. Puis des fois, t'as des formations qui sont mieux nanties tout court, même pour les séries de fin de saison. Après, c'est à l'équipe à faire la job. T'sais, puis nous, on peut regarder ça de l'extérieur, on peut évaluer, analyser, mais c'est eux qui vont décider s'ils sont capables d'être compétitifs contre ces formations-là. Peut-être qu'au bout du compte, on va dire, ah, il manque ça encore aux Canadiens. Parfait. Mais c'est eux qui peuvent décider. Je pense pas qu'en 93, puis là, je dis pas la Coupe Stanley, c'est pas ça que je parle. Mais en 93, il y a personne qui prévoyait le Canadien qui remporte la Coupe Stanley. 86, la même chose. Ça prend de la chance, ça prend des paquets de petits facteurs. Puis à partir de là, tu sais, je veux dire, non, c'est pas le Lightning de Tampa Bay, c'est clair.
Ben moi la seule chose j'ai juste trouvé curieuse un peu la question parce que la question sous-entend qu'il y a beaucoup de monde qui disent que le Canadien est un prétendant. Moi honnêtement personnellement j'ai à part dans les 10 premiers matchs là quand le Canadien tuait tout le monde 5-1, j'ai pas vraiment puis encore là moi-même à ce moment-là personnellement je les voyais pas plus loin que le peut-être finale d'association. J'ai pas l'impression que c'est un discours qui est très très ambiant là de dire que le Canadien est un prétendant. Je pense que c'est assez clair comme tu dis que
Je pense qu'ils vont aller loin dans les séries, Guillaume.
Ben, ils peuvent aller loin, mais
parce que j'ai pas la prétention de dire qu'ils vont aller en finale de la Coupe Stanley, mais sincèrement, je pense que ce club-là, il y a trop à prouver, puis il y a pas de vedette là-dedans. Et c'est ce qui va faire la force de cette équipe-là.
Oui, non, mais dire qu'ils vont aller loin, c'est une chose, mais parler de prétendant, c'est juste que moi, le terme prétendant me laisse croire une équipe qui a des chances pour la Coupe. Puis je veux dire, je suis pas sûr que c'est un discours qui est très, très répandu. Maintenant, est-ce que c'est possible que le Canadien sorte de la division canadienne?
C'est pas impossible.
Jamais, comme tu dis, c'est ouais. Ça, surtout avec de la façon que l'équipe est bâtie, c'est pas impossible. Mais entre ça, puis soulever la Coupe face à aux puissances qui sont listées ici...
Ben, en série, plus de tout peut arriver, Michael, sur cette dernière question.
Ben, on lit la question de Steph256. Je ne sais pas si c'est quelqu'un de Québec, là, mais t'sais, on dirait que la personne veut qu'on dise non. Là, t'sais, là, mais je suis d'accord avec
vous. Tu nous parles de où, Mick, déjà, toi?
Je suis de Québec aussi. Okay. Pour la question. mais t'sais, sincèrement, vous avez raison de dire. Quand on va arriver à la série, là, tous les compteurs vont repartir à zéro. Puis si jamais le Canadien, ça se met à partir en force et tout ça, ben écoute, ils vont se rendre jusqu'où ils vont devoir se rendre en jouant bien. Tu sais, on l'a vu cet été, donc ça demeure un peu, c'est un peu subjectif comme question, mais dans le fond, c'est deux saisons, puis on a hâte de voir quel visage aura le Canadien en série.
Ben, moi, je pense que je change d'opinion à toutes les deux semaines, ou à peu près. Mais cette équipe-là a vraiment beaucoup de profondeur, puis ils ont beaucoup d'options, puis il y a beaucoup de gars qui ont d'expérience des séries, l'expérience de la Coupe Stanley. Je dirais pas que le Canadien est un prétendant, mais je suis un peu comme vous, je serais pas surpris qu'il sorte de cette division-là. Soit dit en passant, avant de compléter l'émission, j'ai oublié de le mentionner plus tôt, mais le Canadien a procédé à quelques annonces techniques aujourd'hui. Là, ils ont signé notamment Corey Schoeneman, qui est un défenseur qui est avec le Rocket de Laval, donc il a signé un contrat... pourrait être appelé là à un certain moment donné si on aurait besoin de lui. Et on a aussi déplacé Lucas Vedemo et Cole Caulfield sur le taxi squad, mais on n'a pas l'intention de se servir d'eux. C'est vraiment là des transactions papier, comme on dit. Donc il y a pas d'informations tangibles à soutirer de cela. Ben c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui, les gars. On va se souhaiter un beau week-end pascal. Il y aura un match samedi soir. Nous, on va se retrouver mardi de la semaine prochaine pour un autre épisode de Sortie de zone. Merci à toute l'équipe. Jérémy Rainville, Guillaume Lefrançois, Michael Lalancette. Merci aussi à Maxime Pépaquette à la mise en onde. Je vous dis bon week-end et on se retrouve mardi. Salut tout le monde.